RMC Entre les Poteaux, Roxane Lacusca.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les Poteaux. On vous l'a dit, on vous accompagne tout l'été sur votre podcast. Vous verrez, on vous a préparé plein de petites choses pour vos vacances. Donc si vous ne voulez rien rater, évidemment, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas louper les épisodes inédits qu'on vous a concoctés. Eh bien, abonnez-vous à votre chaîne de podcast Entre les Poteaux. Mais aujourd'hui, on va revenir sur le premier match des Bleus de cette toute nouvelle compétition qui est le championnat des nations. Et pour débuter, les Français se rendaient à Christchurch en Nouvelle-Zélande pour affronter les All Blacks. Un match perdu de justesse, 34-32. Place au débrief. Et comme chaque été, je retrouve mon binôme, mon compère, qui me tient compagnie pendant que tous les autres vont se prélasser au soleil. Arthur Jean.
Toujours là, toujours
Salut Arthur.
Ça va Roxane? Ça va Clément?
J'ai l'impression que les années ça se suivent et se ressemblent finalement.
Ouais, on est là pendant
début juillet, tout le monde s'en va.
Ils ont intérêt à revenir bronzer, les collègues.
Et en forme.
Et en forme, surtout.
Évidemment. Et un petit nouveau dans ce podcast, vous venez d'entendre sa voix.
Et oui.
Clément Brossard nous rejoint. Salut,
salut
Clément.
Salut Roxane, salut Arthur. Pas en vacances non plus.
Bienvenue dans ce podcast.
Merci beaucoup.
Ici, c'est la NASA. Donc, faut être au niveau.
C'est un énorme honneur.
Clément Brossard qui a commenté le match pour RMC ce samedi matin. Messieurs, aujourd'hui, on va se mettre un peu en mode after. Et je vais vous demander les points que vous retenez de ce match. Puis on développera. Honneur aux plus jeunes. Arthur, que retiens-tu de ce premier match des Bleus dans cette ancienne tournée d'été, désormais championnat des nations?
Première chose à retenir, je pense, c'est un débat régulier dans l'after, notamment la défaite encourageante. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? J'aurais tendance à dire que ça existe vu ce match-là et vu le contexte. Bon, on aura le temps d'en reparler évidemment, mais il y a beaucoup de choses à sauver sur ce match des Bleus qui ont encore perdu de quelques points. Donc plutôt du positif à retirer de ce match-là, je trouve. Une première ligne décevante aussi, il y avait des joueurs qui étaient attendus. Maxime Lamotte ne devait pas se louper, Jefferson Poirot, ça faisait un moment qu'il n'était pas revenu en bleu. Etc. etc. Les remplaçants ont fait beaucoup de bien aussi. Et voilà, des Néo-Zélandais, pour mon dernier point, pas du tout surprenant. On a vu le jeu qu'on connaît de la part de cette Nouvelle-Zélande qui est presque culturellement ancré au final. Et on n'arrive toujours pas à trouver les clés pour battre cette équipe à cette période-là de l'année, puisqu'on les a déjà battus sur les dernières années, évidemment.
Clément.
Ce que je retiens, c'est qu'après des années de difficultés en Nouvelle-Zélande, on a réussi à faire quand même une belle performance en échouant à 2 points avec beaucoup de joueurs inexpérimentés qui arrivaient pour certains deuxième, troisième sélection, etc. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça rejoint ce que tu disais aussi, Arthur. Dans un deuxième temps, j'ai trouvé assez frustrant le fait qu'il y ait énormément de joueurs qui devaient jouer des points aujourd'hui en vue du Mondial en Australie et qu'on n'a pas réussi à saisir leur chance. On en reparlera certainement, mais sur la première ligne, et notamment Demba Bamba, j'ai été très très déçu parce qu'il y a un boulevard vraiment pour occuper ce poste de pilier droit et que personne n'a réussi à s'en saisir. Et puis le dernier point, c'est plus un point visuel et esthétique, mais ce stade est absolument incroyable. Ouais. Une verrière dingue, ouais. ce One Stadium-là, à Christchurch, qui est vraiment dingue, vraiment dingue.
Excellent. On va développer tout ça. Messieurs, d'abord, je le disais en introduction, c'est une nouvelle compétition. Clément, est-ce que tu peux nous rappeler le format de ce qu'est le championnat des nations?
Oui, nouveau format, donc avec chaque équipe qui affronte les 6 nations de l'hémisphère opposé, avec 3 matchs en juillet et 3 matchs en novembre. Donc on a assisté au premier match, c'était l'ouverture de ce nouveau tournoi en Nouvelle-Zélande ce matin. Il y aura ensuite un deuxième match toujours dans l'hémisphère sud avec l'Australie, ce sera samedi 11, et à Brisbane, là aussi petit clin d'œil à ce qui va se passer dans quelques mois maintenant, un avant-goût du Mondial 2027, et puis ensuite on ira jouer à Tokyo face au Japon le 18. Et puis ensuite, donc, retour en France pour les 3 matchs contre 3 équipes de l'hémisphère opposé aussi. On va recevoir les Fidji, l'Afrique du Sud et l'Argentine.
Très bien. Le retour de la défaite encourageante.
Fameuse.
Puisque pour cette première confrontation, les Bleus s'en sortent. Alors, on n'a pas l'habitude parce qu'avant, sur les tournées d'été, il n'y avait aucun point à glaner si on perdait. Là, on a quand même le double bonus, étant donné que c'est une compétition qui compte. Bonus défensif et bonus offensif, puisqu'on a marqué 4 essais. On s'en sort malgré tout plutôt bien. On se le disait en préparant cette émission, Arthur, la stratégie des Bleus n'a pas payé. On se faisait la remarque qu'on a très peu joué au pied. Pourquoi ce choix?
Bah, en fait, il n'y a pas 10 000 manières de battre les All Blacks. Je dirais que pour tenter de les battre, en tout cas, il faut garder le ballon. Il faut les priver de ballon. Ce qu'on a essayé de faire, sauf qu'après, qu'est-ce qu'on en fait de ce ballon-là ? Il y a plusieurs solutions. Encore une fois, on peut jouer avec un jeu, je veux dire, en mode Afrique du Sud, c'est-à-dire aller essayer de les concasser devant. Et là, on a choisi d'essayer de vaincre le jeu par le jeu, entre guillemets. C'est-à-dire jouer un peu comme eux, en miroir. C'est jouer avec, en envoyant le ballon vite au large, en utilisant des avants très mobiles, un pack plus léger, des avants qui font des passes. Vraiment en fait une manière de jouer qui est, je le disais tout à l'heure, culturellement ancrée chez les All Blacks. On a essayé d'imiter un peu ça et au final ça a failli payer malgré tout avec un changement de stratégie au fur et à mesure du match, notamment quand les entrants sont arrivés sur la pelouse. Là on est allé chercher aussi les points un peu plus sensibles en bordure de rug, ce qu'on n'a pas trop fait en première mi-temps. Mais voilà, la grosse clé de ce match-là, c'était juste de garder le ballon et de ne pas les rendre au pied. On n'a fait que 3 ou 4 coups de pied de dégagement, je crois, en première mi-temps. Ça montre bien qu'en fait on a mis l'accent sur un plan de jeu très particulier et ça a plus ou moins payé, disons.
Est-ce que c'était le bon choix de faire ça, selon toi ? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu essayer plus de percer le rideau défensif des All Blacks en allant justement chercher aussi ces ballons hauts ?
En fait, c'est difficile à dire parce que sur le jeu aérien, les All Blacks nous surpassent, comme beaucoup d'équipes, en fait, comme beaucoup de nations mondiales. Donc à partir de ce moment-là, en sachant nos carences et l'équipe qu'on est capable d'aligner, sachant qu'il nous manquait quelques gros porteurs comme Emmanuel Meafou, comme Péa Tomovaka, Julien Marchand, etc., bon, les finalistes du top 14 notamment, à partir de ce moment-là, quand on fait avec ce qu'on a, on est obligé d'aller chercher ce style de jeu qui est en train de mettre Galtier en place depuis plusieurs mois. On voit l'équipe de France jouer beaucoup plus, faire appel à des joueurs qui sont techniquement très forts. On a vu la distance qui nous sépare des All Blacks techniquement, quand on voit certains essais qui ont été inscrits avec des passes hyper rapides où tu vas très très vite chercher les ailes. On en est encore loin. Mais il y a ces tentatives et je pense que sur ce match-là, ça aurait pu payer s'il n'y avait pas ces petites erreurs dont on parlera après, les petits scories qui nous empêchent d'aller marquer plusieurs fois.
Tu viens de l'évoquer, on avait aussi un paquet d'avant plus léger que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai qu'on avait un banc en 5-3, notamment Clément.
Exactement.
On avait 3 arrières sur le banc.
Oui, on avait 3 arrières sur le banc. Et alors, je trouve que sur l'exercice de la mêlée, ça ne s'est pas forcément ressenti. On est resté assez correct. Je parlais de Demba tout à l'heure. Demba Bamba.
C'est la première où on a été analysé, mais après, c'est vrai que sur le reste, c'était un peu plus stable.
Exactement. Il a réussi à gratter aussi une faute Bamba sur une des mêlées. Maintenant, sur la ligne avant, en fait, par rapport au bloc que vraiment a mis en place le nouveau sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, hein, c'était aussi sa première à Dave Rennie, exactement. On a été bougé dans tous les sens du terme. Eux, ils ont mis aussi une première ligne qui était très expérimentée. On la rappelle, Cody Taylor en talonneur avec ses 106 sélections. On avait Ethan De Groot qui a donné de sa personne. D'ailleurs, je pense qu'il a perdu une arcade dans la partie.
Ouais.
Et Fletcher Newell aussi avec 35 sélections et 120 kilos. Donc, on était déjà dominé dans le combat physique sur la feuille de match avant tout. Et on n'a pas réussi à inverser la tendance là-dessus.
Et quand tu vois aussi l'activité du pack de la Nouvelle-Zélande, je veux dire, on reparlera après de la deuxième ligne qui a été immense sur ce match-là. Notamment Derry, le numéro 4, si je ne me trompe pas, qui a plaqué à 21 reprises, je crois, qui est souvent utilisé en premier réceptionneur. Ça fait aussi partie de ses caractéristiques du jeu des All Blacks, où les deuxièmes lignes sont souvent utilisées, souvent quasiment positionnées en numéro 10. Donc, quand on voit tout ça, on se dit qu'on est en train de... Bon, il faut rappeler le contexte, encore une fois, hein, c'est une tournée d'été, tous les finalistes ne sont pas là, c'est une fin de saison pour nous, et c'est un début, entre guillemets, une saison pour eux qui a été plus légère. Donc, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Mais voilà, effectivement, comme tu le disais Clément, là, on a juste touché à plus fort que nous, avec des All Blacks comme Odd Diesel, qui ont mal démarré et très bien terminé.
Si on continue sur ce paquet d'avant, tu le disais dans tes points à retenir de ce match, c'est une première ligne qui a été quand même assez décevante côté français.
Ouais, ça a été compliqué, surtout dans l'impact physique. On en discutait aussi, Roxane, tous les deux. Un gros manque d'impact, que ce soit défensivement et offensivement. C'est-à-dire, quand on porte les ballons, il faut s'attendre à gagner toutes les collisions. Il faut espérer ça pour jouer dans l'avancée et aussi justement pour pouvoir éjecter ces ballons tranquillement. Ce que n'ont pas forcément réussi à faire, notamment Maxime Lamotte et Jefferson Poirot, même si Maxime Lamotte est un peu plus joueur. Demba Bamba, qui a eu quelques éclairs quand même. On sait que c'est un joueur qui est capable de porter, qui est très énergique, très explosif. Mais après, je veux dire, ces collisions-là, malheureusement, Hugo Radu est un très bon joueur de touche, mais ce n'est pas lui qui va forcément les remporter. Donc, il faut ces gros porteurs-là. Ça nous a peut-être manqué. C'est pour ça que quand Mickaël Guihard est rentré, notamment, ça a fait du bien aussi à ce pack-là. Ça fait partie de cette fraîcheur aussi que sont censés amener les remplaçants.
Mbah qui est sorti à la pause, remplacé par Régis Montagne, qui a été peut-être plus intéressant, plus mobile aussi que Demba Bamba. Sur ses prises de balles aussi, encore une fois, intéressant. On sait que c'est une faculté aussi de Régis Montagne, mais il n'a pas transcendé, mais il a apporté un petit quelque chose.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, à l'image de tous les remplaçants, hein, quand ils sont rentrés, on est passé sur, comme je disais tout à l'heure, un espèce de changement de stratégie où là, on allait les chercher en bordure de ruck parce qu'eux aussi fatiguent. Les Néo-Zélandais ne sont pas invincibles, heureusement. Et ça a un peu payé. On a eu un petit regain d'énergie en début de seconde mi-temps. Et puis après, malheureusement, quand même, sur 80 minutes, les Néo-Zélandais savent ce qu'ils font, récitent leur rugby. Et à partir de ce moment-là, c'est assez dur d'aller chercher quand même.
Bah, c'est ce qui est quand même assez frappant, messieurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le manque de fraîcheur, évidemment, des Français qui sont. Ouais. À bout de course, parce que c'est la fin de la saison. Il y avait 11 Bordelais titulaires sur la feuille de match. Même s'ils n'ont pas participé aux phases finales de Top 14, ils sont quand même champions d'Europe. Donc, ils ont aussi eu une saison où ils ont dû beaucoup batailler. C'est ce manque de fraîcheur physique aussi qui nous a empêchés de gagner ce match, peut-être.
Bah, tu le vois, à partir de la 20e minute, on voit déjà des mecs avec les mains sur les hanches. Non pas qu'ils manquent de prépa physique, hein, mais comme on le disait tout à l'heure, la saison elle est hyper longue en Top 14 et beaucoup plus éprouvante aussi physiquement que le Super Rugby, qui est un jeu beaucoup plus aéré, avec où il y a beaucoup plus de jeux de trois quarts, où ça plaque moins, etc. Donc à partir de ce moment-là, c'est normal qu'on arrive dans cet état-là, même avec des joueurs qui n'ont pas forcément joué de phase finale. Après, quand tu vois des mecs avec les mains sur les hanches à la 20e minute, il y a eu des très longues séquences de la part des Néo-Zélandais, qui sont, c'est leur jeu, hein, je veux dire, il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais il faut trouver la bonne solution pour les contrer, peut-être hacher un peu plus le jeu, plus les embêter dans les rucks, aussi aller gratter des ballons, ce qu'on n'a pas forcément trop réussi à faire.
Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, on n'a pas trop réussi à aller gratter des ballons non plus dans les rucks. Il nous a manqué peut-être un profil d'un gratteur.
Non, on s'est fait bouffer dans les rucks, surtout face à une équipe qui en plus était indisciplinée. On voit notamment dès le quart d'heure de jeu, je crois qu'ils font trois fautes en l'espace de trois minutes.
Faute de suite, ouais.
Voilà, dès le quart d'heure, et on n'a pas réussi à en profiter. Et dans les rucks, on a vu aussi l'importance de Savea qui était toujours là, toujours présent et qui a pas mal gratté aussi et qui était au soutien.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'est une phase de jeu là sur la conquête, on n'a pas été très bon.
Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une phase sur laquelle on se repose principalement sur Movaka ou Marchand quand ils sont là, voire Aldrit qui n'est plus là depuis un petit moment maintenant, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui, dans ces moments-là, manquent peut-être un peu pour aussi venir gagner à la fois des collisions et venir gratter aussi dans les rucks.
Surtout que Gazzotti est un excellent gratteur. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas lui enlever ça pour le coup, mais il n'a pas trop réussi à s'imposer dans ce domaine-là. Après, sur les rucks aussi, ce qui est assez impressionnant de la part des Néo-Zélandais, c'est qu'en fait, ils vont très très peu se consommer dans les rucks, offensivement ou défensivement, ce qui fait que offensivement, il y a un joueur au déblayage ou deux maximum. Ils sont très efficaces sur cette zone-là. Et défensivement, s'ils ne se consomment pas dans les rucks, ça fait beaucoup plus de monde sur la largeur. Ce qui fait qu'en fait, ils sont disponibles pour défendre et la ligne, elle est toujours complète. Et à partir de ce moment-là, nous, on a du mal à franchir aussi. Donc, c'est tout bénef, en fait.
Même si Marco Gazzotti fait un énorme match. Hein. Enfin, moi, je trouve pour sa première titularisation avec les Bleus, il fait 17 plaquages. Je me rappelle aussi notamment d'une action de jeu, je crois que c'est juste avant le deuxième essai, où il vient à lui seul vraiment stopper la contre-attaque néo-zélandaise. Il arrive à un plaquage, à arracher un ballon, et derrière, ça file à laisser sur le côté gauche. Donc, il a été très, très satisfaisant. Pour moi, c'est peut-être mon plus gros point de satisfaction, Gazzotti.
C'est un des points de satisfaction, de toute manière, cette troisième ligne. Alors, peut-être si on enlève quand même Beauchaton, qui a été assez vite remplacé. Mais c'est vrai que Oscar Jégou et Gazzotti, ça a quand même été plutôt solide aujourd'hui.
Ouais, franchement, Oscar Jégou, valeur sûre. Hein, de toute façon, par son activité, il est devenu indispensable, hein, je pense, après avoir, avec le retour des finalistes, et s'il n'y a plus de blessés, à quel point il sera indispensable, justement, même s'il l'a été pendant le tournoi Destination. Après, Gazzotti, j'avoue qu'il a fait un énorme match, notamment défensivement, etc. T'en parlais, Clément. Offensivement, peut-être qu'on en attendait un petit peu plus. Parce que justement, il fait partie de ces gros porteurs dont on avait besoin pour aller casser du Néo-Zélandais, ce qui fait très bien en Top 14 en Coupe d'Europe. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un excellent joueur. Sauf que sur ce match-là, 10 courses, je crois, j'avais cru lire ça. Et en fait, sur les 10 courses, pas tant de défenseurs battus que ça, quoi. Je pourrais vous retrouver le chiffre, mais on l'attendait peut-être un peu plus offensivement. Il n'a pas eu tant de ballons que ça à se mettre sous la dent aussi, forcément. Mais défensivement, tu l'as dit, Clément, il a été immense, Gazzotti.
Pour revenir sur ce manque de fraîcheur physique dont on parlait juste avant, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines entrées qui ont été trop tardives? Peut-être, je pense notamment à Nolan Le Garec. Maxime Lucu a fait un très bon match, mais on sent que sur la fin, voilà, ça commençait à être un peu dur. Nolan Le Garec rentre à 5 minutes de la fin du match. Est-ce que ça fait partie des joueurs qu'on aurait pu faire rentrer plus tôt? Même le paquet d'avant a été changé environ vers la 60e, 58e, je crois exactement. Donc on a quand même attendu avant de faire ces changements. Est-ce qu'on aurait peut-être dû les faire plus tôt?
Sur l'organisation du jeu, je suis assez d'accord sur le fait que Nolan Le Gaec aurait pu rentrer un petit peu plus tôt pour apporter de la fraîcheur, surtout qu'on a un peu moins vu Maxime Lucu sur la fin de match, qui a été évidemment le joueur providentiel de l'équipe de France sur la manière de faire tourner le jeu, et c'est celui d'ailleurs qui a fait le plus de pas, je crois, dans la rencontre, tout joueur confondu et tout camp confondu. Nolan Le Gaec, moi j'aurais bien vu jouer au moins un petit quart d'heure sur la fin de match, et j'ai l'impression, oui, que les changements étaient assez tardifs, à part l'entrée d'Antoine Astoy, mais qui est rentré suite au protocole commotion de Max Springs en tout début de rencontre et qui a été très intéressant, je trouve, dans l'avancée et dans le rythme qu'il a pu mettre à son entrée en jeu. Et c'est sûr que Fabien Galthée, je trouve, n'a pas réussi à réagir au moment opportun vraiment pour essayer de changer le sort de la rencontre.
Antoine Astoy qui est aussi rentré ensuite, qui a fait toute la seconde période, ouais, à la place exactement. De Damien Penaud. Il y a une réorganisation, mais il a remplacé comptablement Damien Penaud.
Il fait des petits allers-retours, comme ça, il a apporté son dynamisme. Non, je suis d'accord avec toi sur Nolan Le Gaec, qu'il aurait pu le faire rentrer un peu plus tôt pour dynamiser un peu le jeu, sachant que Lucu, c'est un joueur qui ne s'économise pas, qui a fait 14 plaquages en tout. Bon, on met titulaire pour ça aussi. C'est là-dedans où il est aussi très fort, Max Lucu. Mais il y a ce changement-là. Malheureusement, la paire de centre fait un super match, on en reparlera plus tard, donc difficile de sortir Moefana ou Deporter, qui sont aussi ultra précieux défensivement, et Broboiri offensivement. Donc à partir de ce moment-là, Guillard est rentré assez tôt aussi. Je ne sais pas s'il y avait tant de différence que ça allait faire vis-à-vis du banc et des timings des changements. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Roxane. Nolan Le Gaec aurait pu rentrer peut-être un tout petit peu plus tôt.
Moi, je me dis que si on avait eu un peu plus de fraîcheur physique, on aurait peut-être pu remporter ce match. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui a finalement pêché.
Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs de lucidité hein, sur la fin de match. Quand on regarde les balles manquées, je pense notamment à un petit en avant aussi d'Oscar Jégou dans les 22 derniers mètres néo-zélandais. Voilà, il y a pas mal de petits ballons manqués dans les airs aussi. Bon, on savait qu'ils étaient un petit peu plus costauds que nous, mais voilà, je trouve que c'est vraiment la lucidité qui a manqué sur les 15 dernières minutes où on a senti que le vent pouvait tourner. Et en plus, quand on voit qu'on termine à 2 points des Néo-Z, c'est encore plus frustrant, quoi.
C'est vrai que ça s'est joué sur des détails, finalement. Ça se joue sur Max Spring qui fait un petit en avant dans les airs et qui prive Broboiri de son essai qu'il était allé marquer juste derrière, mais qui a du coup été annulé. Maxime Lucu qui loupe une transformation qui nous prive de ces 2 points manquants, finalement, pour faire au moins un match nul. Ça s'est vraiment joué à pas grand-chose.
Ce qui est terrible en plus, c'est que en fait, ce match-là, donc faut rappeler que les Néo-Zélandais n'ont pas joué ensemble, la sélection néo-zélandaise, depuis fin novembre, si je ne me trompe pas. Donc en fait, c'est le moment où il faut les prendre, entre guillemets, où les joueurs vont peut-être un peu manquer d'automatisme, etc. T'en parlais Clément tout à l'heure, hein, c'est des joueurs d'expérience, donc bon, faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit des néophytes.
Oui, mais nouveau sélectionneur avec une nouvelle méthode de jeu aussi, et ça aussi, c'était à prendre en compte.
Oui, c'est vrai. Au niveau du contexte, c'est la fin de leur saison de Super Rugby, donc les mecs peuvent être peut-être potentiellement un peu plus fatigués que sur d'autres matchs. Et on n'a pas réussi à le faire.
Ils sont quand même peut-être un peu plus frais que nous, je pense.
Oui, largement.
Tu le disais tout à l'heure, le jeu du Super Rugby est peut-être un peu moins intense, entre guillemets, que celui du Top 14.
Bon, mais c'est à domicile juste... aussi, on a tendance à l'oublier, aussi, mais le trajet compte. Hein.
Ouais,
c'est
pas le décalage horaire aussi, non, mais c'est vrai. C'est aussi une donnée à prendre en compte, évidemment. On va passer justement sur ces Néo-Zélandais. Quelle stratégie ils avaient décidé d'adopter, Arthur, aujourd'hui, les Néo-Zélandais face à nous?
Ils ont fait du All Black, quoi. Ils ont fait du All Black.
Pas de surprise, tu le dis, ça fait partie de tes points, on n'a pas été surpris par la stratégie.
Ah ouais, non, c'est qu'en fait, les joueurs peuvent être interchangeables, et en fait, le jeu persiste, c'est le même jeu depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on va chercher à balayer le terrain, à très peu se consommer dans les rucks, très peu utiliser le jeu au pied aussi, à part en dernier recours, entre guillemets. Donc, à partir de ce moment-là, on sait à quoi s'attendre. Ils ont eu un peu de mal à mettre en place leur jeu, justement. Il y a Stantam où Damien Penaud marque très vite, où on prend direct un jaune, etc. Sauf qu'en fait, après, ils ont juste eu à réciter leur rugby. Cam Rugard en chef d'orchestre, qui est toujours aussi bon, qui est peut-être le meilleur demi-mêlée de la planète actuellement. Ils avaient la chance d'avoir la charnière des Hurricanes.
Ouais. Sacrée charnière.
Voilà, donc
sacré match.
Je veux dire, Rugard Love, c'est des joueurs qui se connaissent par cœur, qui ont gagné la finale de Super Rugby 60-5 il y a 2 semaines de cela. Donc,
il y avait 10 joueurs des Hurricanes, hein, quand même.
10 joueurs des Hurricanes.
La colonne vertébrale, 9-10.
Voilà, tout est une belle ossature en plus déjà. Donc, les automatismes, en fait, je ne sais même pas si c'est la peine d'en parler parce que ces joueurs-là se connaissent par cœur dans tous les cas. Donc, ils ont fait du All Black, en fait. Ils ont fait
c'était du UBB Hurricanes, en fait.
Un choc de la Coupe du Monde des clubs en avance.
Non, mais c'est vrai que c'est des All Black qu'on fait du néo-zélandais, quoi. Ouais. C'est vrai, tu le disais. Et on les voyait beaucoup avancer. Sur chaque impact, ça faisait mouche, quasiment.
Ouais, non, ils ont été hyper décisifs et puis réalistes sur l'ensemble de la partie. Alors moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'apport de Ruben Love, qui était sur sa 6e sélection, donc qui est encore tout jeune dans cet effectif-là.
Très prometteur, quand même.
Très, très prometteur, et qui a été d'ailleurs, je crois, MVP de la finale de Super Rugby aussi, il y a quelques jours. Bon, ouais. Donc non, c'est un garçon qui a un potentiel de dingue et qui nous a fait mal parce que tu parlais tout à l'heure de Cam Rogard qui évidemment est indéboulonnable à son poste, mais il a mis une vitesse folle aussi dans le jeu des All Blacks ce matin.
Ouais, c'est clair parce qu'en plus, on a vu, bon, malheureusement, il faut faire la comparaison avec Max Lucu, mais ça éjecte très très vite les ballons. Et en plus, lui va peser sur les bords de ruck, ce que Maxime Lucu en fait, a peut-être moins fait sur ce match-là, et c'est aussi moins son style de jeu. Donc en fait, regarde, il y a plusieurs fois où il perce justement parce qu'il voit un espace avant les autres, et puis après, bah, il fait jouer, et puis bah, voilà, le résultat, c'est qu'il marque deux essais, et puis on a pu le contrer, quoi, tout simplement.
Là où on a moins vu McKenzie, que d'habitude, on a l'habitude de voir, qui était positionné à l'arrière aujourd'hui, où d'ailleurs, il manque son premier coup de pied, où on s'est dit, oh, Smiling Assassin est passé à côté de son match. Et puis,
il connaît le surnom.
Elle me terrifie, cette tête. Elle me terrifie. Mais ouais, on l'a moins vu, sur le coup. Il a apporté moins d'activité, un petit peu plus en retrait aujourd'hui, McKenzie.
Surtout qu'il y a ce système-là, fait que du coup, avec un 10 et un 15, les deux sont interchangeables, les deux peuvent jouer les deux postes. Généralement, tu vois les deux alterner, etc. Et en fait, là, McKenzie, il a un peu été laissé derrière, on va dire. Donc, ça a peut-être moins bien payé, ce truc-là. Après, McKenzie a perdu son influence dans le jeu des Blacks depuis 2-3 ans, au profit de Beauden Barrett notamment. Bon, là, c'était Ruben Love qui était titulaire, mais ça ne change pas vraiment selon les demi d'ouverture, finalement.
Autre chose qui a été particulièrement impressionnante, vous l'avez un peu évoqué au début du podcast, c'est cette deuxième ligne, Arthur, néo-zélandaise, qui était omniprésent.
Josh Lord, Sam Dary.
Tout à fait, merci. J'avais oublié le prénom de Dary tout à l'heure, donc heureusement qu'il l'a fait. en fait, à l'image de ces deuxièmes lignes néo-zélandais qui savent absolument tout faire, c'est des joueurs qui sont comme un Thibaut Flamand en France, par exemple. C'est des joueurs qui ont des très bonnes mains, qui ont une très bonne vision du jeu. C'est des joueurs qui savent parfaitement où se placer dans le rugby récité par les néo-zélandais, qui ont une énorme activité. On parlait tout à l'heure des 21 plaquages de Dary. Josh Lord a été peut-être un peu moins présent à ce niveau-là. Il a plaqué que 10 fois. Mais en fait, il y a une activité énorme, que ce soit dans les soutiens offensifs aussi. Pareil, en fait, on parlait de joueurs interchangeables selon les équipes néo-zélandaises. Bah, les deuxièmes lignes, en fait, ils ont un réservoir énorme, sachant qu'il y a Patrick Tupulotu qui est sur le banc, qui a été capitaine aussi de la Nouvelle-Zélande. Ouais. On fait difficilement mieux au niveau mondial que ces joueurs-là. Et sur ce match-là, ils ont encore plus brillé que les autres.
Et sur la touche, intraitable. Senti l'équipe de France capable de contester en touche, quoi. Enfin, chaque lancer, comme on dit, un certain sportif, il ne va pas la chercher.
Et puis, la petite ref Mbappé. Imitation de Mbappé, peut-être
Il ne va pas la chercher, non, bien sûr. C'était compliqué aujourd'hui.
Il fallait remplacer une personne. Exceptionnel.
En plus, Clément, tu sais qu'ici, c'est le podcast des imitations.
Ah oui, j'ai cru entendre.
Il y a des imitations toutes les semaines. Donc,
la meilleure étant celle de Christophe Furios.
Peut-être, oui. Après, celle de Philippe Saint-André par Julien André. Pas mal aussi. Tu rejoins officiellement
je m'adapte,
le groupe d'entre les poteaux. Bravo Clément. T'avais dit quelque chose, Arthur?
Non, juste pour finir sur la touche, juste un petit ajout à ce que disait Clément qui a parfaitement raison.
Merci Arthur.
Il y avait quand même Hugo Radu en touche, qui est un client, et il n'a pas existé. Alors c'est là où on l'attend en fait en touche. Malheureusement, on disait tout à l'heure, il est plus difficilement enclin à gagner des contacts, etc., à gagner des collisions, pardon. Là, on ne l'a pas vu et c'est encore un signe immense que les deux deuxièmes lignes ont fait un match super.
Est-ce que vous avez été satisfait de notre touche, de nos touches à nous?
Sur la variation, moi, j'ai trouvé ça intéressant. On a essayé de changer de zone à chaque fois. Moi, j'ai bien aimé cette petite tentative. Alors, l'ancienne n'était pas droite, Maxime Lamotte avec Jalibert, parce que celui-ci, il nous mettait directement dans l'avancée. Et s'il va au bout, ça offre quelque chose de pas mal. Donc, je trouve que dans la variation de lancer, on a été plutôt intéressant.
On perd que deux touches au final. Donc, c'est évidemment, c'est dans les standards internationaux, on va dire. Après, je veux dire qu'on sait que ce n'est pas une de nos qualités premières, je trouve. Donc, on est amené à se concentrer sur d'autres domaines. Après, il y avait des clients en face. Donc, à partir de ce moment-là, on sait à quoi s'attendre. Malheureusement.
Oui. Après, c'est le propre des matchs internationaux. C'est qu'il y a souvent des clients en face.
Généralement, oui. Ça arrive.
Est-ce que vous avez l'impression, messieurs, pour revenir sur la Nouvelle-Zélande, qu'ils ont peut-être un peu baissé le pied en seconde période? Ou pas? Ou c'est moi qui me fais un peu des illusions?
Moi, pas vraiment. Franchement, dans la rencontre, j'ai pas senti qu'il y avait vraiment un temps mort. Nous, pour le coup, on a eu vraiment des périodes de temps faible, temps fort. Pour les Néo-Zélandais, je les ai trouvés assez constants sur l'ensemble de la rencontre. Je trouve qu'ils ont là aussi varié le jeu, parfois sur l'intérieur, parfois en essayant d'aller chercher des Will Jordan, etc., que je trouve un petit peu moins rapide que d'habitude, notamment. Auteur d'un doublé encore aujourd'hui. Hein, mais je les ai trouvés assez constants sur l'ensemble de la rencontre, et c'est peut-être nous qui avons réussi par moment à les faire déjouer et par moment à les laisser un peu trop libres.
Parce qu'ils étaient quand même sous pression sur la fin du match. Ils dégagent en touche quand même assez rapidement. On sent qu'il ne fallait pas que ça dure non plus beaucoup plus longtemps ce match, Arthur.
Et à la fin, c'est toujours la Nouvelle-Zélande qui gagne.
Ouais.
Non mais parce que mauvais choix énorme quand même de jouer au pied. On parlait tout à l'heure des coups de pied de dégagement, mais quand on regarde le chrono et qu'il reste une minute, est-ce que le mieux c'était pas de conserver le ballon? Enfin moi ça m'a surpris.
Le choix de Legarec,
un peu douteux. Non et en plus tu parlais tout à l'heure de la constance, Clément, je suis assez d'accord avec toi pour le coup, parce que quand tu regardes quand on est dans un gros temps fort et qu'on marque grâce à Tissokbe, là, un super essai avec des passes très rapides vers l'aile, ils répondent 5 minutes plus tard.
C'est vrai.
Je veux dire que le temps faible, s'il y en a eu, si, j'arrive plus à parler. Si tant est qu'il y en a eu un, en fait, il n'a pas duré très longtemps.
La phrase était difficile. Ouais, en même temps, non, mais ils ont souvent été en réaction. C'est sûr que dès qu'on arrivait à les mettre à l'envers, tout de suite, il leur fallait mais 2 minutes maximum pour réagir.
Ouais.
En début de match, Penaud marque à la 2e et puis Will Jordan à la 8e. Je veux dire, à chaque fois, réaction express.
C'est vrai. Messieurs, comme chaque semaine, on va discerner les meilleurs et les pires poteaux. Ça fait aussi des points que vous avez souligné en début de podcast, c'était peut-être le match pour marquer des points, pour en perdre peut-être aussi, ou de moins ne pas du tout en marquer. Quels sont vos meilleurs et vos pires poteaux de ce match? On va commencer par ceux qui ont marqué des points, peut-être, Arthur. Qui, toi, t'as le plus impressionné sur ce match?
Il a marqué des points. Alors, il n'a pas marqué tout court, mais il a fait une jolie passe D. Fabien Brobroiry, je trouve, qui a été peut-être le meilleur français sur ce match-là. Pêle-mêle, ses stats, il a fait 16 plaquages, il n'en a manqué que 3. 86 mètres parcourus, celui qui a parcouru le plus de mètres chez les Bleus. 2 franchissements, une passe décisive, donc je le disais, et 3 offload. Un match très très complet, et il fait partie de ces joueurs. Ils ont été rares sur ce match-là à peser offensivement et surtout défensivement, même s'il y avait un client à côté, Moefana, et 19 plaquages. Il confirme match après match, quand il joue avec les Bleus, qu'il peut jouer 12 ou 13, peu importe, il aura une influence sur le terrain, et qu'en fait, il ne se démonte pas malgré l'opposition, parce qu'il y avait, on parlait de client tout à l'heure, il y avait Quintupaea en face, qui est quand même un cadre de ces All Blacks, donc j'ai été impressionné par ce match-là, et encore une fois, il est très jeune, Fabien Brobroiry, donc il a des choses à prouver, et il est bon.
Et il joue plus souvent 12 quand même avec la section paloise, donc là, c'est vrai que ce n'est pas exactement le exactement le même poste quand même,
il a un talent fou, franchement, d'un poste à un autre, il joue toujours aussi bien, et je veux dire, on l'utilise peut-être un peu différemment, mais au final ça modifie pas tant sa manière de jouer, et il est toujours aussi bon, voilà, tout simplement.
On doit donner un poteau?
Tu peux en donner, c'est plusieurs si tu veux.
D'accord. Non mais juste pour Brobroiry, donc je suis assez d'accord avec toi, je trouve que c'est le mec qui doit avoir le plus de frustration en sortant de ce terrain-là, parce que l'essai refusé avec l'en avant de Max Springs et juste avant cette petite passe au pied de Jalibert, où vraiment, on a eu le débat tout à l'heure, bon, pour moi, il y avait vraiment mieux à faire parce que ça arrive à hauteur de main et que ça lui glisse un petit peu. Donc vraiment, il fait un super match, mais je pense qu'il peut faire un match encore plus haut.
Il peut nous faire gagner.
Il peut nous faire gagner, clairement. Et si cet essai-là passe, vraiment, ça change la physionomie du match. Non, moi, j'ai envie de souligner quelqu'un qu'on souligne beaucoup, évidemment, mais qui a été à la hauteur des attentes, c'est Mathieu Jalibert, qui a été très bon dans l'organisation, on parlait du peu de jeu au pied, mais à chaque fois, ses coups de pied étaient aussi bien sentis, parfois un peu trop ambitieux. Et c'est lui qui a réussi à mettre le rythme dans le jeu français. Et franchement, la plupart de ses duels aussi, il les a gagnés. Et il a été vraiment sur ce qu'on attendait d'un match de Mathieu Jalibert face aux Blacks en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un point de satisfaction. Et Max Gazzotti aussi dans son apport défensif.
Moi, je trouve que Jalibert, c'était le patron de cette équipe aujourd'hui.
Ah oui, complètement. Bah, on le disait en fait tous les deux aussi, Roxane. Il a été quasiment à l'origine de toutes nos actions chaudes. Un peu. Et il a tout enclenché par un coup de génie, un offload, 3 offloads d'ailleurs. Comme à Bordeaux en fait, il n'y a pas de surprise.
Non, c'est vrai.
Et les petits plus aussi, je trouve, c'est les entames de période où vraiment on a réussi à marquer dès la deuxième minute, même un petit peu moins par Damien Penaud, et on est très très vite aussi re-rentré dans le match au sortir des vestiaires.
Ouais, c'est vrai.
On s'est fait sanctionner derrière, Astoy a inscrit cet essai, et ensuite je crois que c'est Rowagard qui met l'essai juste derrière après Astoy, mais les entames de période ont été très très satisfaisantes pour les Bleus.
C'est vrai. Côté pire poteau, je commence avec toi Clément, parce que je sais qu'il y en a un qui t'a particulièrement déçu aujourd'hui.
Non, bah oui, Dumba Bamba, parce que son match, encore une fois, n'est pas catastrophique. Ce que je regrette surtout, c'est qu'on savait très bien qu'il y avait un poste qui était ciblé par Fabien Galthié pour se dire, là, il y a des points à prendre. Dumba Bamba jouait avec, en alternance, Régis Montagne, ils ont fait quasiment une mi-temps chacun, Régis Montagne a un petit peu moins joué. Mais il n'a pas été transcendant dans un pack où vraiment il fallait se montrer. Il perd 2 ballons, il a été pris de vitesse sur la plupart de ses actions. Donc, il gratte un petit ballon sur une mêlée, mais je trouve que c'est décevant quand on sait qu'il y avait énormément de points à prendre pour un mondial qui va arriver très très vite. C'était l'occasion de se montrer, il n'a pas réussi à le faire.
Arthur ?
Plutôt en néo-zélandais, pour moi, pour les pires poteaux. J'étais déçu du match de Jordi Barrett. Qui est pourtant l'un des hommes de base de cette équipe néo-zélandaise depuis des années. qui est censé apporter toute sa puissance et toute sa technique au milieu du terrain. Sur ce match-là, il a été plutôt mobilisé pour attirer les défenseurs et faire des passes. Donc c'est, j'allais dire, un peu dommage de l'utiliser comme ça, mais bon, ils ont gagné quand même au final. Mais je l'ai trouvé beaucoup moins influent que d'habitude, beaucoup moins présent défensivement. Après, il y avait Moefana en face qui avait décidé de ne rien laisser passer, et Bourbouari aussi, donc plus compliqué. Mais un seul franchissement, cette petite course, ce plaquage tout de même, c'est pas négligeable. Mais je l'ai connu plus influent, peut-être aussi, parfois, on l'utilise aussi plutôt pour son jeu au pied, qui est quand même très puissant. Là, cet aspect-là de son jeu, on ne l'a pas vu non plus. Donc un peu décevant, Jordi Barrett, sur ce match-là.
Et si je peux ajouter une petite déception, même s'il a marqué son 41e essai avec l'équipe de France pour sa 60e sélection, Damien Penaud a été assez discret, je trouve, avec des passes plutôt approximatives, avec aussi une part de responsabilité sur le deuxième essai néo-zélandais. Mais
sachant qu'on parlait de joueurs qui ont besoin de marquer des points, Damien
lui en fait,
Penaud,
partie. En fait partie. Il était dans un duel à distance avec Atis Ogbe, je ne suis pas sûr qu'il ait remporté ce duel-là.
Non, je suis d'accord.
Atis Ogbe a fait un bien meilleur match.
Moi, je vais mettre juste un petit point de satisfaction pour Barnabé Massa, voilà, qui joue son premier match avec...
On aurait voulu le voir un peu plus longtemps, même.
C'est vrai.
Il est rentré assez tard, ouais.
Il est rentré assez tard. Barnabé Massa, le talonneur de Clermont, qui a remplacé Lamotte. Je vais dire Montagne, exactement. Pas du tout.
C'est son collègue, ça.
Voilà, exactement.
Le deuxième à faire sa première cape après Staniforth aussi.
Oui, c'est vrai que Staniforth faisait sa première cape aussi aujourd'hui. Merci, messieurs, pour ce débrief complet, je pense. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain match des Bleus face à l'Australie. Ça sera samedi prochain, à vivre évidemment sur RMC. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne de podcast Entre les Poteaux pour ne rien manquer. On se retrouve très vite. Ciao.